Et ça enregistre, c'est merveilleux. Voilà. Bon, je vais pouvoir enfin commencer. Excusez-moi de ce retard. Donc, eh bien, bonjour à toutes celles qui sont là, celles qui vont arriver, celles qui écouteront. Donc, merci d'être là dans ce Café Naissance. Alors, un Café Naissance, c'est quoi? C'est un moment tous les mois, tous les premiers mardis du mois, c'est un moment de partage, un moment de partage d'expérience, de connaissances, d'inspiration sur un sujet de la maternité. Et aujourd'hui, le sujet de la maternité, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de femmes, c'est le sujet de la douleur de l'accouchement. Voilà. Donc, je vous donnerai à la fin ce qui me semble vraiment les trois indispensables à savoir, mais ça va être tout un cheminement qu'on va faire ensemble pendant 1 heure. Voilà. Avant, je vais juste prendre un petit temps pour me présenter. Donc, moi, je m'appelle Anne-Christine. Je suis doula. Voilà. Donc, ça veut dire que j'accompagne les femmes, j'accompagne les couples pour qu'ils reprennent confiance en leur capacité à enfanter et qu'ils puissent faire des choix éclairés pour qu'ils puissent vivre un enfantement qui leur correspond vraiment, souvent en dehors des sentiers battus. Je suis maman de 3 enfants avec 3 naissances très différentes et à chaque fois un regard sur la douleur qui a été très très différent. Donc pour vous raconter très rapidement, il y a 16 ans, j'ai eu une petite fille à 16 ans. Bon, maintenant elle fait 1,75 m et c'est elle qui m'a dépatouillée sur mon téléphone tout à l'heure. Voilà. Et il y a 16 ans, moi j'avais extrêmement peur de la douleur. Donc on reparlera de cette peur après. Et j'étais terrorisée en fait par la douleur, enfin une appréhension, voilà. Et j'ai choisi d'avoir la péri. En fait, c'était pas un vrai choix, hein. C'était plutôt la peur qui m'a dicté ça. Voilà. Ça s'est, on va dire, bien passé au regard du médical. Donc voilà, c'était ce qu'il me fallait à ce moment-là. J'aurais pas été capable de vivre autre chose, je pense, parce que j'avais pas fait comme vous la démarche de me renseigner et de voir les choses autrement. Et puis il y a 10 ans, je rêvais d'un accouchement physiologique. Mon regard avait changé entre ces 2 enfants et j'avais envie d'un accouchement très naturel. Donc je m'étais beaucoup préparée, j'avais fait beaucoup de champs prénatales, beaucoup lu des gens vraiment des pros de la physio, Michel Audan, Ina Megaskine, Mike Titrelin, etc. Je pourrais vous donner toutes les références si vous voulez. Et je suis arrivée à la maternité, j'étais à 9, je chantais. Et j'ai juste expulsé mon bébé, voilà. Par contre, arrivée à la maternité, j'ai perdu mon pouvoir, entre guillemets, et je me suis laissée faire. Et donc, j'ai accouché les pieds dans les étriers, sur le dos, en poussée dirigée. Voilà, parce que je me disais qu'ils savaient sûrement mieux que moi ce qu'il fallait faire. Et c'est comme ça. Voilà. Et puis, il y a 7 ans, j'ai eu notre petit dernier. Et le petit dernier, il est né à la maison. Voilà. Et là, pour le coup, j'ai vraiment compris ce que c'était qu'accoucher, en fait, qu'enfanter seule. Alors, on n'était pas seule, il y avait une sage-femme, hein, mais la sage-femme, elle était dans un coin et voilà, elle était dans son rôle de sage-femme, à surveiller, à soutenir, à accompagner. Mais j'ai vraiment vécu quelque chose de transcendant, je crois que c'est vraiment le terme. Et la douleur n'était plus du tout la même. Parce que le regard que je posais n'était plus du tout le même. Donc, dans tout ce que je vais vous raconter derrière, je pourrais encore illustrer tout ça, mais le sujet de la douleur, c'est vraiment un sujet, moi, qui est important dans mes accompagnements et dans mon métier de doula, parce que c'est un cheminement que j'ai eu. Et aujourd'hui, j'ai à cœur, en fait, de faire passer les femmes de la peur d'accoucher à la puissance d'enfanter. C'est vraiment ça, en fait, mon leitmotiv aujourd'hui, c'est que on peut vivre autre chose que la peur. C'est pas un mauvais moment à passer, l'accouchement. C'est quelque chose vraiment qui peut être très puissant. On va se reconnecter à des choses très profondes. Alors, je vois pas tout le monde, mais il y en a certaines qui ont dû lire ça. Blandine, je crois, hein. Ouais. Ah, Claire aussi, super. Donc, vous allez retrouver un petit peu ce qu'il y a écrit dans ce livre, parce que ce livre, je l'ai sorti il y a 6 mois. Et l'idée, c'était vraiment ça. C'était de faire un guide super rapide à lire, en fait, très clair et concis, pour changer notre regard et s'ouvrir à autre chose et pouvoir vivre autre chose dans l'enfantement. Voilà, donc j'aimerais savoir, je vais vous faire bosser un peu quand même, hein. J'aimerais savoir pourquoi vous avez peur de la douleur. Pourquoi est-ce que c'est un sujet qui a fait que vous vous êtes inscrite aujourd'hui? C'est une bonne question, hein.
Mais je me lance, si vous voulez.
Alors, Claire, je ne t'entends pas. J'ai un souci. Attends. Est-ce que c'est mon téléphone qui ne marche pas? Non, pourtant, il est OK.
Et les autres, vous m'entendez?
Oui.
Alors,
c'est mieux comme vous m'entendez?
Oui, c'est bon, je t'entends là.
Ah ben super. Du coup, je disais, je me lance si ça vous va.
Ouais.
En fait, moi, ce qui me fait peur dans cette histoire de douleur, c'est... Donc là, je suis enceinte, c'est ma première grossesse. Et en fait, d'y avoir un peu réfléchi et tout ça, je me suis dit que c'était vraiment une peur de l'inconnu. C'est que, en fait, je ne sais pas comment ça va se passer. On peut lire tout ce qu'on veut. Il y a un moment où on ne sait pas, quoi. Il faut se lancer dans le vide. Et...
C'est vrai.
Voilà. Et en fait, moi, je pensais plus ça, la racine profonde de ma peur, quoi.
D'accord. La peur de l'inconnu.
Ouais.
Ouais.
Okay. Et puis, c'est vrai que ben là, je suis sur le dernier mois de grossesse et je vois mon ventre qui grossit, qui grossit. Et il y a des moments où je le regarde et je me dis, mais comment ça va être possible? Voilà.
Comment ça va sortir?
Voilà. Et la semaine dernière, il y a ma nièce qui est venue... à la maison et qui très gentiment m'a dit « Mais j'ai une question, Tata. Les bébés, ça sort bien par la pépette. » Elle non plus, elle trouvait que ça n'avait pas l'air possible. Et oui. Voilà, c'est un peu cette peur, enfin, c'est ancestral, je pense, que le truc. Mais donc, voilà, il y a à la fois une envie, une motivation pour vivre l'accouchement en étant pleinement présente et en même temps, une peur, enfin, c'est « j'y vais pas », quoi.
Ok.
Voilà. Et du coup, je me suis inscrite à l'atelier en me disant au moins, il y aura des gens qui partagent. Je ne sais pas si j'aurai des réponses, mais...
ouais, complètement. Tu auras des pistes de réflexion. J'espère quand même que tu auras des réponses. Mais... ok. Alors, c'est vrai que les peurs... Ah, putain, je rebranche. Vous m'entendez mieux quand je fais comme ça?
Non.
C'est kiff-kiff.
C'est pareil.
C'est pareil.
Ok, ça marche. En fait, la peur de l'accouchement, elle vient de plein de choses différentes. Alors, il y a cette peur de l'inconnu, en effet. Mais alors, pour celles qui ont déjà eu des enfants, il peut y avoir la peur des expériences précédentes qui ont pu être plus ou moins traumatisantes, en tout cas pas forcément en accord avec l'idée qu'on s'en était fait. Donc, il y a cette peur-là. Il peut y avoir... la peur, quand on est enceinte, il y a toujours quelqu'un autour de nous qui vient nous raconter son accouchement. Et en général, c'est toujours le pire des accouchements. C'est jamais celle qui a vécu un truc de fou, quoi. C'est toujours celle qui va dire « Oh là là, mais moi, j'ai failli mourir, j'ai failli ça. » Donc, protégez-vous de tout ça. Vraiment, hein, c'est vraiment important que vous protégiez tout ça parce que vous êtes... très vulnérable enceinte, vous êtes très ouverte, vous percevez beaucoup de choses et tout ça, c'est pas votre histoire, c'est son histoire à cette dame, à son mari, enfin voilà, c'est leur histoire et ils ont vécu ce qu'ils avaient à vivre. En tout cas, vous, ça vous regarde pas. Il y a des peurs qui sont liées aussi à notre propre naissance et c'est intéressant d'aller savoir comment on est né et pas la légende. Il y a souvent des légendes dans les familles. Mais vraiment, elle est demandé à sa maman si c'est possible de raconter comment elle a vécu, elle, dans ses émotions. Et souvent, ça passe par du langage non-verbal. Dans le non-verbal, vous allez voir ce qu'elle a perçu. Et comme ça, de manière, on va dire, transgénérationnelle, il y a des choses qui se transmettent. Moi, quand je vous disais que j'avais très, très peur de l'accouchement pour ma fille... je fais partie de ces lignées de femmes où en fait accoucher c'est dangereux. C'est dangereux, c'est douloureux, on perd des enfants en couche. Voilà, dans ma lignée de femmes, c'est ça. Et donc forcément quand depuis toute petite, même si on ne me le disait pas comme ça, C'est ce qu'on me transmettait. Du coup, ça ferme la porte à d'autres choses à vivre. Si on ne sait pas que c'est possible de les vivre autrement, ben en fait, on ne voit même pas la fenêtre. C'est-à-dire qu'on peut passer, la fenêtre, elle est grande ouverte, on ne la voit pas parce qu'on se dit, ben non, mais de toute façon, ça ne peut pas exister. Pour moi, l'accouchement, ça ne pouvait pas être un bon moment. Ce n'était pas possible. Voilà, donc ça fait partie de nos inconscients collectifs. Et puis, il y a toute la culture collective. Hein. La culture collective, c'est dans certains pays, c'est naturel d'accoucher. Ça ne pose aucun souci, ce n'est même pas une question. Dans d'autres pays, surtout les pays nordiques, c'est un accomplissement de soi. Et ben, en France, il se trouve qu'accoucher, c'est dangereux et douloureux. Voilà. Ça, c'est la vision française qu'on a. C'est comme ça, c'est OK avec ça. Il faut juste se dire que c'est culturel. C'est une vision et il en existe des tas d'autres. Mais si vous repensez un petit peu aux films que vous regardez depuis toute petite, aux émissions de télé, ou les femmes, elles accouchent toujours en hurlant, les pieds dans les étriers, avec un gars entre leurs jambes en train de leur dire « Poussez, madame !» Toujours, hein ? Et donc, forcément, depuis toute petite, on nous dit « C'est comme ça qu'on accouche. Voilà. » Et tu as besoin d'avoir quelqu'un entre tes jambes, parce que si tu n'as pas quelqu'un entre tes jambes pour sortir le bébé, tu n'es pas capable de le faire. Mais ça, c'est une vision. Voilà. Il y a d'autres visions possibles. Ça en est une, c'est une des réalités, mais ce n'est pas forcément celle que vous avez envie de choisir, surtout si vous êtes là cet après-midi, a priori. Et donc, tout ça, toute cette culture, tout cet inconscient, tout ce qu'on vous raconte à côté, ça crée de la peur. Et la peur, ça crée des tensions, ça vous fait sécréter de l'adrénaline, ça tend les muscles et du coup, ça rend la douleur plus importante. Je vais juste vous citer un exemple que vous devez bien connaître, c'est vous allez faire votre prise de sang. Donc, parmi vous, il y en a plein qui vont faire des prises de sang tous les mois, je pense. La dernière fois, si l'infirmier qui vous a fait la prise de sang, il s'est un peu loupé, qui vous a fait mal, vous allez arriver cette fois-ci tendu en disant « Oh là, non, j'ai pas envie que ça recommence, quoi. J'ai pas envie de ça. » Et du coup, vous allez arriver avec le poing serré, les muscles tendus, même sans vous en apercevoir. Et forcément, l'infirmier qui va vous piquer cette fois-ci, et ben pour lui, ça va être plus compliqué parce qu'il va se retrouver face à des muscles tendus. Et du coup, il y aura de la douleur. Parce que piquer sur un muscle tendu, c'est plus compliqué que piquer sur un muscle détendu. Et donc, cette peur, elle crée de la douleur. Il y a un médecin qui s'appelle le docteur Reed qui a beaucoup écrit là-dessus au début du siècle dernier. Et lui, il disait que la majorité de la douleur, lui, il estimait qu'à plus de 80%, la douleur, elle était là, elle était dans la tête. Et juste pour illustrer mon propos, je vais vous dire comment s'est passé le début de mon troisième accouchement à la maison. J'ai eu des contractions à 20 heures, des contractions qui étaient très intenses tout de suite et assez rapprochées, 4-5 minutes tout de suite. Mais alors, zéro douleur. Mais rien, quoi. Je les sentais, je les regardais, ça passait, ça venait, ça repartait. Et en fait, j'avais vu ma sage-femme la veille qui m'avait dit « Ton col, il n'est pas du tout prêt, c'est pas pour maintenant, on se revoit la semaine prochaine. » Et donc moi, là, je n'étais pas en train d'accoucher. Vraiment pas. J'étais mais à milieu, je me disais « ça se prépare, c'est bien, tout ce qui est fait n'est plus à faire. » Donc c'est super. Je me couche, je m'endors. Avec toujours ces contractions qui n'arrêtaient pas. Je m'endors, je me réveille à minuit, parce que quand même, elles étaient intenses, mais pas douloureuses du tout, quoi, mais très intenses. Et là, je me réveille, je me dis, si ça fait 4 heures que toutes les 5 minutes, j'ai des contractions comme ça, quand même, peut-être un truc. Et donc, j'appelle la sage-femme, et je lui dis ce qui se passe, et la sage-femme, elle me dit, OK, j'arrive. Et là, mon cerveau, il a compris. Il s'est dit, oh, waouh, non, c'est maintenant. Je ne peux plus reculer, il faut y aller. Quoi. Et là, j'ai été tétanisée par la contraction suivante, qui était exactement la même que celle d'avant. Exactement la même. C'est-à-dire le pouvoir de notre pensée. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai eu peur. Alors, j'ai eu peur de plein de choses, je pense, hein, mais en tout cas, la peur m'a tétanisée et a fait que j'ai ressenti cette douleur. Et il m'a fallu quand même un certain nombre de contractions, certaines techniques que je transmets aux femmes pour revenir dans l'accouchement et ne plus être dans cette douleur. Parce qu'une fois qu'on est embarqué dans la douleur, elle risque de devenir souffrance. Et là, sur la souffrance, après, on perd pied. Voilà. La différence entre la douleur et la souffrance, c'est que la douleur, elle est physique. Je me tape contre la chaise, j'ai mal au genou. Voilà, c'est physique. La souffrance, elle est dans la tête. C'est-à-dire que je perds quelqu'un de cher, je souffre, mais mon corps n'est pas atteint, mais je souffre. C'est là. Et dans l'accouchement, il y a un moment de bascule potentielle où, en fait, la peur de la prochaine contraction, du temps qui passe, de la durée, de plein de choses peut faire basculer dans la souffrance. Voilà, donc ça, c'est la grande différence quand même à faire. Normalement, il n'y a pas de souffrance dans un accouchement. Voilà. Il peut y avoir de la douleur, oui. Ça peut être douloureux parce que c'est intense. Voilà, c'est très intense. Alors, pour celles qui ont déjà accouché, mais non, même pour celles qui n'ont pas encore accouché, est-ce que vous pourriez me dire à quoi ressemble une contraction et où ça se passe? Où est-ce que se situe cette douleur, en fait?
Moi, c'était au niveau des reins.
Alors, je ne t'entends pas.
Pour moi, c'était au niveau des reins.
OK.
Et je ne m'y attendais pas. Je pensais que ça allait être au ventre.
Ouais. C'est vrai que les reins, c'est... Alors, moi, je n'ai jamais testé. Mais il paraît que c'est extrêmement douloureux. Alors, il y a des positions à prendre quand on a des contractions qu'on appelle par les reins. Il y a des positions qui sont vraiment... qui viennent soulager.
D'accord.
Voilà. Mais alors, en fait... Les contractions, la douleur des contractions, il n'y en a pas une semblable en fonction des femmes et pas une semblable en fonction des accouchements. C'est-à-dire que tu as pu avoir des contractions par les reins, ça ne veut pas dire que le prochain, ce sera ça. Et ça peut être, alors en effet, dans les reins, c'est assez compliqué a priori à gérer, mais ça peut se faire. Des fois, ça peut tirer très fort entre les cuisses ou à l'extérieur des cuisses. Il y a des femmes qui ont des sensations de vagues de chaleur. Ça monte, c'est intenable, ça redescend. Il y a des femmes qui ont des sensations très fortes au niveau du périnée. Voilà, il y a des... Alors, le cas le plus classique, on va dire, c'est comme un étau, en fait, qui vient resserrer le ventre. Voilà, qui part sur les côtés, comme une vague, en fait, hein, qui vient jusqu'au nombril et qui repart, qui serre et qui repart. Voilà, donc, c'est vrai que... Je crois que c'est Claire tout à l'heure qui nous parlait de la peur de l'inconnu. On ne peut pas dire à quoi ça ressemble vraiment une contraction. Parce que, en fait, toutes les femmes vont les vivre de manière très différente. Voilà. Par contre, il y a des choses qui sont vraiment à savoir. C'est que une contraction, ça ne dure pas. Et ça, c'est super important de se le rappeler quand on est dedans. Une contraction, ça vient. Ça monte en intensité, ça atteint le sommet et ça redescend. C'est ce que vous verrez sur le monito, ou j'espère que vous ne verrez pas parce que ce n'est pas le truc à regarder pour vous. Mais en tout cas, sur le monito, quand on regarde, on voit vraiment, ça monte, ça descend. Et donc, en fait, quand vous êtes dans la contraction, il faut vous souvenir que cette contraction, c'est une vague qui passe. Et en fait, ce n'est pas une douleur constante. Ce n'est pas une rage de dents. Une rage de dents, c'est une douleur constante. Vous l'avez, et c'est lancinant, c'est tout le temps là, ça part jamais, ça ne vous laisse pas de répit. Dans un accouchement, il y a beaucoup de répit. Beaucoup, 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 mine de rien. On se souvient des contractions, mais en fait, il y a une contraction, on se repose. Une contraction, on se repose. Et le temps qui est important, c'est le repos entre les contractions. C'est ce temps-là, en fait, où vous allez vous ouvrir. Et c'est un temps vraiment où vous avez besoin de vous détendre, de souffler, de respirer, de revenir à l'intérieur de vous pour respirer. Et c'est comme ça que vous pourrez traverser toutes les contractions. Donc la contraction, elle est pas constante et elle est progressive. Alors, je mets un bémol, hein, je vous donne, on va dire, un accouchement type, mais comme il n'y en a aucun qui ressemble à l'autre, c'est compliqué, mais normalement, on tombe dans l'accouchement comme on tombe enceinte et comme on tombe en amour, on y va, on rentre progressivement dans l'accouchement. C'est-à-dire qu'il y a une phase, en fait, où il y a une espèce de sas dans lequel on va rentrer dans une autre réalité. Et donc, vous allez avoir une contraction, et puis plus rien pendant 10 minutes, et puis une autre contraction, et puis plus rien pendant 10 minutes, et puis elles vont se rapprocher toutes les 7-8 minutes, et puis de se rapprocher encore toutes les 5 minutes. Bref, vous allez avoir le temps, j'allais dire, de vous habituer, entre guillemets. C'est surtout votre corps, en fait, qui va s'habituer, parce que votre corps, quand il contracte, il sécrète une hormone qui s'appelle l'ocytocine, qui est l'hormone de l'amour. Et quand cette ocytocine contracte beaucoup et qu'elle vient malmener un peu le muscle utérin et que c'est un peu douloureux, à ce moment-là, votre corps est extrêmement bien fait et il a un système physiologique antidouleur qui s'appelle l'endorphine. Donc, vous allez sécréter des endorphines qui sont en fait c'est notre morphine à nous, quoi, naturelle. Et ça va marcher par cliquet. C'est-à-dire, je sécrète un peu d'ocytocine, hop, je sécrète un peu d'endorphine, un peu d'ocytocine, un peu d'endorphine. Et je monte comme ça. Donc, en fait, votre corps va s'habituer parce que vos endorphines vont venir apaiser cette sensation de douleur. C'est pour ça aussi qu'on dit qu'un déclenchement à l'ocytocine, ça donne des contractions plus douloureuses, parce qu'en fait, le corps n'a pas le temps de s'habituer et en fait, il reçoit une injection forte d'ocytocine, donc ça contracte très fort tout de suite. Et du coup, le corps dit « Waouh, non mais moi, je ne sais pas faire là, je ne vais même pas sécréter d'endorphine parce que c'est trop pour moi en fait. » Et donc souvent, on a une péri derrière parce que le corps n'est pas rentré dedans en fait. Donc, il y a un moment où, voilà, il faut vous souvenir que la contraction, on s'y habitue, entre guillemets. Quand vous les aurez, je ne suis pas sûre que vous reteniez ce mot-là, mais en tout cas, c'est vraiment ça. Il y a une idée de rentrer dans le moment de l'accouchement, de rentrer là-dedans. Ce que je voulais vous dire aussi, c'était que finalement, toutes les douleurs de la grossesse que vous pouvez avoir, et quand on est enceinte, on a toujours des petits mots par-ci, par-là. Bon, je ne voulais pas si vous les connaissez. C'est intéressant de voir comment vous réagissez par rapport à ça. Qu'est-ce que vous faites? Alors moi, je vais prendre un exemple vraiment très basique, mais un mal de tête. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez mal à la tête? Est-ce que vous prenez un cachet tout de suite? Et pourquoi pas, c'est OK. Ou est-ce que vous essayez d'autres méthodes? Et vous savez, par exemple, que vous mettre dans le noir, ça vous fait du bien. Ça apaise la sensation de douleur. Ou alors, quand il y a moins de bruit, vous vous mettez dans le calme. Ou alors, vous vous allongez. Ou au contraire, vous bougez. Il y en a qui aiment le froid, il y en a qui aiment le chaud. Ça, c'est des petites choses. C'est intéressant pendant votre grossesse de voir ce qui vous fait du bien parce que, intuitivement, vous allez trouver votre manière à vous d'apaiser la douleur. Et là, c'est vraiment très différent selon les femmes. C'est pour ça que dans mes ateliers, on essaie de balayer tous les outils pour que, en fait, chaque femme puisse aller piocher derrière ce qui lui convient, elle. Voilà, parce que si je vous ai parlé du son tout à l'heure, pour moi, qui a été un outil merveilleux que j'ai utilisé pour mes deux derniers accouchements, mais peut-être que vous, ça ne vous parlera pas, et c'est OK, il y en a d'autres. Il faut tester les positions, il faut tester la mobilité, il y a plein de choses. Donc, essayez, pendant le temps de grossesse qui vous reste, de regarder comment vous réagissez face à une douleur. Comment vous faites, en fait qu'est-ce qui vous fait du bien? Et en fait, l'environnement est vraiment, vraiment important. Donc, si je reprends mon exemple du mal de tête, vous avez mal à la tête. Si vous êtes dans un centre commercial, enfermé, avec du bruit autour de vous, une foule pas possible, vous sentez bien que l'environnement extérieur vient rajouter de la douleur. Alors que si vous sortez et vous allez vous mettre... je sais pas, dans votre chambre, dans le noir, sans bruit, l'environnement va apaiser la douleur. Et bien en fait, c'est exactement la même chose avec les contractions. C'est vraiment exactement la même chose. Donc, c'est intéressant de découvrir aujourd'hui, en fait, ce qui est bon pour vous. Voilà. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Est-ce que c'est quelque chose... Voilà. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez mal?
Ça dépend
du type de douleur, je dirais, parce qu'il y a des douleurs où, quand par exemple c'est des douleurs musculaires dans les jambes, tout ça, etc., bah, on va avoir, enfin, je vais avoir tendance à vouloir changer de position, trouver une position où ça peut soulager. Et voilà. Ouais, voilà. Là, je pense aux douleurs musculaires et qui fait changer de position. Voilà.
Mais c'est ça. La douleur, du coup, pour toi, là, elle est un guide. Elle va te guider vers une autre position. C'est-à-dire que tu vas te dire, ah ben là, ma position, elle n'est vraiment pas confortable. Donc, il faut que je change. Mais pendant l'accouchement, ça va être pareil. C'est-à-dire qu'il y a des tas de positions qu'on peut prendre quand on accouche, selon le moment de l'accouchement aussi, parce qu'on en reparlera, mais la douleur n'est pas la même selon le moment. Et du coup, cette douleur-là, ben, elle te guide dans ta mobilité, en te disant, ben là, peut-être qu'au lieu d'être assise, il faut être couchée, ou au lieu d'être couchée, il faut être debout, enfin, voilà, remonter la jambe ou la déplier, etc. Donc, c'est exactement la même chose que tu auras comme intuition, en fait, pendant l'accouchement. Et alors, pour revenir sur la notion de la douleur n'est pas la même pendant l'accouchement, il n'est pas vrai, et ça vraiment je veux que vous l'entendiez, il n'est pas vrai que quand on a mal à 3 et qu'on croit qu'on va mourir tellement on a mal, à 10 c'est pire. Parce que souvent, enfin moi la première, j'ai entendu ça dans des structures hospitalières, on m'a dit « Oh là là, ma pauvre dame, si vous êtes à 3 comme ça, à 10, l'air de dire vous n'y arriverez jamais, vous n'avez pas les capacités pour. » Et en fait, ce n'est pas vrai, ce n'est pas exponentiel comme ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des phases dans l'accouchement, il y a des phases de pré-travail, de travail, de désespérance, en effet, puis la phase d'expulsion, mais chaque contraction est différente. Et ce n'est pas parce que cette contraction-là, elle est douloureuse, elle vient vous titiller très fort, que celle d'après, ce sera pareil ou pire. Ça ne veut rien dire du tout, en fait. Donc, quand une contraction se termine, c'est pas la peine d'anticiper parce qu'on ne sait pas ce que sera celle d'après, et c'est pas la peine de repenser à celle qui vient de passer parce que de toute façon elle est passée, elle ne reviendra pas. Donc, restez vraiment ancré dans le moment présent, c'est vraiment la chose la plus importante pour pouvoir traverser chaque contraction l'une après l'autre. C'est vraiment la théorie des petits pas, hein, c'est on y va. Contraction après contraction, petit à petit. Voilà.
Excusez-moi. Bonjour, moi je suis Fanny, mais ma caméra ne fonctionne pas, je n'ai pas réussi à la mettre.
Okay.
Ça me parle, en fait, je me permets de prendre la parole, parce que moi je suis enceinte de mon deuxième enfant, donc j'ai déjà une petite fille à 3 ans, et j'avais dans le projet de naissance, projet de naissance que je n'avais pas fait à l'époque, parce que je ne savais pas trop que ça existait, dans le projet que j'avais eu avec l'anesthésiste, c'était d'avoir une petite péridurale que je puisse gérer avec la petite pompe au fur et à mesure de comment je pouvais gérer. Et en fait, quand je suis arrivée à la maternité, j'étais déjà à 5. Donc, ils m'ont tout de suite mise dans la salle de naissance. On y est arrivé. Enfin, je ne savais pas comment ça allait se passer, mais j'ai pleuré de joie quand ils m'ont dit « Vous êtes à 5, on y va tout de suite. » Et l'anesthésiste est arrivé. En fait, il m'a mis péridurale et j'ai senti tout de suite que ce n'était pas du tout aussi faible que ce que je voulais. Et j'ai plus senti mes pieds tout de suite, c'est monté jusqu'au sein, quoi, jusqu'en haut du ventre, et j'ai plus rien senti jusqu'à 2 heures après l'accouchement. Donc très dur parce que je sentais vraiment plus rien, et puis quand il a fallu pousser, j'arrivais pas, enfin je pouvais pas pousser puisque je sentais rien du tout. Donc ça a été vraiment compliqué. Là après la sage-femme a dit on se laisse encore 10 minutes, après on passe à autre chose. Donc là on trouve des forces surhumaine et on pousse et elle est sortie. Mais du coup, là, mon projet pour la deuxième, c'est vraiment de faire différemment et d'avoir un projet sans péridurale, parce que j'ai pas compris ça tout de suite, mais c'est en reparlant après avec d'autres sages-femmes que les sages-femmes ont posé pour moi le mot de qu'on m'a volé mon accouchement, en fait. Et c'est vrai que j'arrivais pas à me décrire qu'est-ce qui m'avait manqué. Mais c'est vrai qu'effectivement, le fait de tout s'est arrêté net, je ne l'ai pas senti. Quand on me l'a posé sur soi, enfin sur moi, on nous dit toujours quand on le pose sur soi, c'est le plus beau jour de sa vie, les hormones. Mais moi, je n'avais plus rien, quoi. Enfin, j'étais très contente, mais il manque quelque chose. Et du coup, moi, je me suis inscrite à ça, à votre atelier, parce que justement, je me dis que je suis arrivée jusqu'à 5 et je ne sais pas. Je me dis, bah, si, d'un côté, si t'es arrivé jusqu'à 5, tu peux faire les 5 derniers, mais d'un autre côté, c'était déjà tellement intense que est-ce que je vais réussir à faire les 5 derniers, quoi? Voilà un petit peu le...
Ouais. Alors, la péridurale, quand elle est très bien faite, ça peut être une aide intéressante quand on a utilisé tous les autres outils, mais qu'on n'y arrive plus. C'est OK, sauf que c'est un peu la roulette russe. Et là, je suis désolée de dire ça, mais selon sur qui on tombe, eh ben, elle est plus ou moins bien faite, quoi. Et alors, pas plus ou moins bien faite dans le sens du risque, parce que c'est quand même une technique bien maîtrisée. Et je ne veux pas vous faire peur avec la péridurale. Aujourd'hui, c'est maîtrisé. Les cas extrêmes sont extrêmement rares, vraiment. Par contre, c'est ce que Fanny raconte, c'est... Bah, elle sera peut-être trop dosée par rapport à vos ressentis parce qu'en même temps, l'anesthésiste, il ne connaît pas votre ressenti. Donc, il ne peut pas savoir. Mmh. Et du coup, bah, peut-être qu'il va trop doser et il va tout couper. C'est-à-dire qu'il va couper alors, la douleur, ok, ça c'est super, mais il va couper surtout les sensations. Voilà. Et quand on coupe les sensations, et ben, on a en effet ce sentiment d'avoir un accouchement qui a pu être volé. Alors, qui s'explique aussi par un phénomène très physiologique, qui est que quand on t'injecte la péridurale, il y a de très fortes chances pour que derrière, ça ralentisse les contractions utérines.
Mmh, c'est ce qui s'est passé.
Voilà, ça vient endormir les muscles, donc c'est normal. C'est un processus normal. Et donc, derrière, on t'injecte de l'ocytocine de synthèse. Et quand on t'injecte de l'ocytocine de synthèse, en fait, elle vient prendre le dessus sur l'ocytocine naturelle. Tu ne sécrètes plus d'ocytocine naturelle. Et alors elle a exactement la même fonction en termes de contraction, donc ça va remettre le processus de contraction en route, donc ça c'est super. Par contre, il se trouve que l'hormone naturelle, l'ocytocine naturelle, elle a cette capacité en fait à passer la barrière hémato-encéphalique, et donc à rentrer dans le cerveau et à venir créer de l'attachement avec son bébé. Et ça, et ben, l'hormone de synthèse, l'ocytocine de synthèse n'a pas cette capacité-là. Et donc, je ne veux pas dire qu'on ne s'attache pas à nos enfants, parce que nous sommes des êtres culturels et que tout se rattrape, tout se rattrape. Et moi, la première, hein, j'ai accouché sous péri avec de l'ocytocine de synthèse et ma fille, c'est la prunelle de mes yeux, pas de souci. Mais j'ai exactement ressenti ce que tu as ressenti. C'est-à-dire que quand on me l'a posé sur le ventre, j'ai dit, mais...
On culpabilise presque par rapport à tout ce qu'on nous dit depuis petite.
Ouais. Mm. Ouais.
C'est vrai.
Et il peut y avoir un lien d'attachement, du coup, qui est à créer et qui n'est pas, spontané, animal, viscéral.
Tout à fait.
Voilà. Et c'est pas grave, tout se rattrape, hein, je répète, vraiment, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est une question de posture derrière. Voilà, c'est une question de posture, de conscience qu'on met derrière. Mais c'est vrai que si on peut éviter, eh ben, ça rend les choses plus faciles, quoi. Mmh. Voilà, c'est juste ça. Donc, c'est vrai que les projets... Moi, je pense que la péri, c'est un outil. C'est un outil pharmacologique et que ça fait partie de la valise que vous avez à disposition dans une matière. Mais que ça doit être le dernier outil. Voilà. Parce que avant. Okay.
Dans les maternités, ils ne proposent pas forcément d'autres choses, quoi. Comme là, moi, c'est une maternité très réputée pour les accouchements physio et tout ça. Mais comme je pense que je n'avais pas de projet de naissance et tout, puis que c'était un premier, en fait, ils ne m'ont pas proposé rien, quoi. En fait, je suis arrivée et puis ils m'ont dit on va en salle, l'anesthésiste arrive. Mon mari et moi, on s'est dit OK, on y va. Alors qu'en moi, avant de partir, je me disais, j'avais rien dit à personne, mais je ne voulais pas l'apprendre, quoi. Je voulais aller le plus loin possible. Et puis, j'en avais pas parlé. Et, voilà, j'en avais pas parlé. Même à mon mari, je ne l'avais pas dit. Puis quand il m'a dit, t'inquiète, on va arriver. Enfin, c'était dans ma tête, mais je ne savais même pas en fait qu'on pouvait le préparer. C'est bête, mais quand il m'a dit, t'inquiète, on va arriver, tu vas être soulagée, bah, là, j'ai lâché, en fait, comme dans un marathon, où on se dit, quand on commence à se dire, ah, j'en ai marre, j'ai mal sur le côté. Et puis, le fait que la maternité ait rien proposé d'autre, c'est ça.
Alors, il ne faut pas compter sur eux, mater, pour vous proposer quelque chose, parce que ils sont débordés. Ils sont débordés. Enfin, le métier de sage-femme hospitalière, c'est vraiment un métier... aujourd'hui très difficile, où je pense qu'elles ne font pas ce qu'elles aimeraient faire. Voilà, parce qu'elles n'ont pas de temps, en fait, à vous accorder. Et du coup, elles ne vont pas passer 2 heures à côté de vous, à vous tenir la main, à vous faire respirer, à vous faire changer de position. Ça, ce n'est pas possible. Alors, si vous avez la chance de vivre ça, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Je vous le souhaite, ça serait trop bien. Mais ne partez pas avec cette idée en tête. C'est-à-dire qu'il faut vous préparer, vous. Et c'est pour ça qu'après le café naissance, moi, je propose des ateliers pour aller vraiment se préparer à ça parce que, j'allais dire, vous pouvez compter que sur vous. Voilà. Et si vous tombez sur une équipe qui n'est pas débordée et qui est pro-physio, et c'est magnifique, et ça sera super bien. Mais si vous tombez à un moment où toutes les salles de naissance sont prises, ou toutes les femmes accouchent, et qu'il n'y a personne pour vous aider, bah, si vous n'avez rien préparé avant, si vous n'avez rien vu, vous allez être désemparé. En fait. Désemparé. Mmh. Et en effet, le seul outil du coup, qu'ils vont vous proposer dans ce contexte-là, bah, c'est la péri. Parce que la péri, ça va leur prendre 10 minutes et après, ils ne vous entendent plus. Quoi. Mmh. Et ils sont même capables de gérer le moment de votre accouchement. C'est-à-dire que si celle d'à côté, elle est en train d'accoucher, ils vont ralentir le vôtre ou accélérer le vôtre. Ou... Enfin, c'est aussi... La péri, c'est aussi un outil de gestion des salles de naissance. C'est dur ce que je dis, hein, mais ça a été démontré dans des études sociologiques. Et la péri, ce n'est pas forcément pour le bien des femmes. Voilà. Ça peut l'être, mais c'est pas toujours voilà, c'est pas toujours mis comme ça. Donc c'est vraiment vraiment important de vous préparer avant. Alors du coup, je vais faire la transition directe maintenant avec mes ateliers parce que moi je fais ça en deux temps en fait. C'est-à-dire qu'il y a une première rencontre où on décortique tous les mécanismes physiologiques, c'est-à-dire toutes les étapes de l'accouchement, qu'est-ce qui se passe, quels sont mes besoins, quelle est la place de mon partenaire. Qu'est-ce qu'il doit faire à ce moment-là? Comment il doit être? À quoi il doit s'attendre? Parce que la péri, elle est beaucoup demandée par les partenaires. Parce que les partenaires, ils sont décontenancés quoi, de voir leur femme comme ça. Ils se sentent impuissants. Puis ils se disent « Ah là là, elle m'a dit qu'elle allait mourir, c'est qu'elle va mourir. » Donc, il faut faire quelque chose. Mais si on leur dit qu'en fait, non, la femme, quand elle dit qu'elle va mourir, en fait, ce n'est pas ça. C'est quand elle dit qu'elle veut la péri, ce n'est pas forcément la péri qu'elle veut. Non, elle veut juste du soutien. Elle veut de la confiance. Elle veut qu'on la réassure dans ses capacités à donner la vie. Et c'est ça qui est important. Et ça, et ben les partenaires, ils ont besoin d'entendre ça. Donc, dans ce premier atelier, c'est assez théorique, mais c'est vraiment important de comprendre tous les mécanismes pour que tous vos besoins, en fait, soient nourris et que vous puissiez avoir un accouchement physiologique. Et puis, il y a une deuxième partie, un deuxième rendez-vous après, où là, on va expérimenter. Alors là, les partenaires ne sont pas forcément là, mais en tout cas, on expérimente le son, parce que c'est un truc qui a bien marché pour moi, donc je le transmets avec plaisir. La sophrologie, parce que je suis sophrologue et que c'est un outil merveilleux. La respiration, qui est indispensable. Voilà. Les positions, bien sûr. Et même quand on est en visio, je vous fais tester les positions pour que votre corps il comprenne ce que c'est en fait. Qu'il n'ait pas à réfléchir le jour J. Quoi. S'il y a une position qui vous appelle, entre guillemets, ben, il faut la prendre. Il ne faut pas se donner de limites. Voilà, donc ça, c'est une deuxième partie plus boîte à outils, on va dire. Expérimentation de la boîte à outils. Donc, ces ateliers, j'ai fait et en présentiel sur Valence, et en visio, voilà. Et en visio, c'est enregistré. Comme ça, les partenaires, ils peuvent l'écouter. Voilà. Donc, Alors, les prochains ateliers sont mardi prochain et le mardi d'après, les deux. Voilà. Et alors, sur mon téléphone, je ne vous donnerai pas le lien pour s'inscrire parce que je ne sais pas faire. Mais je vous l'enverrai par le mail avec le replay, en fait. Vous aurez tout. Sachant que c'est des groupes assez petits parce que l'idée c'est quand même qu'on puisse partager tout ensemble et que voilà, vous puissiez discuter, me poser des questions, voilà, donc il n'y a pas beaucoup de place. Je préfère privilégier, quitte à en refaire après, il n'y a pas de souci. Voilà, donc on était parti sur la péridurale et on en est arrivé au fait que je pense qu'aujourd'hui dans notre société où 80% des femmes en France ont la péridurale, hein. 80%, c'est pas rien. Hein. Je pense qu'il faut se préparer à autre chose. On ne peut pas passer par la case « j'y vais la fleur au fusil et c'est naturel, tout va bien ». Non, ça demande quand même une confiance en soi qui se construit, voilà, qui se construit, qui peut se construire très rapidement, hein, mais voilà, ça nécessite quand même une démarche. Juste aussi pour info, donc en France, c'est 80% de la population, enfin des femmes qui accouchent qui ont une péri. Au Royaume-Uni, c'est 30. Aux Pays-Bas, c'est 30. Et je ne pense pas que les Anglaises, par exemple, soient plus douillettes que les Françaises. Enfin, a priori, physiquement, il n'y a rien qui peut différencier une Française d'une Anglaise. Donc, ce n'est pas physique. Si ce n'est pas physique, eh ben, on va dire que c'est là. Voilà. Et qu'il y a vraiment une approche différente de l'accouchement. Et le docteur Michel Audan, avec qui je me suis formée, il dit toujours, au lieu d'aller regarder ce qui se passe dans un bassin quand la femme accouche, on ferait mieux de regarder ce qui se passe dans son cerveau. Et je pense qu'il a vraiment raison. Voilà. Les médecins, ils sont focalisés sur le bassin. Est-ce que ça passe pas, ils mesurent dans tous les sens, hein. Ok, c'est sûrement très bien. Mais ils oublient qu'en fait, ça se joue ici. Ça se joue là. Et qu'il y a vraiment un truc à faire sur le néocortex à désactiver pour laisser la place au cerveau reptilien qui gère un acte réflexe. Parce que l'accouchement, c'est un acte réflexe. Voilà. C'est important de se souvenir de ça. On ne maîtrise pas un accouchement. On peut essayer de le gérer, de le contrôler. Ça, c'est la médecine qui le fait. Mais pour rendre un accouchement plus facile, en fait, c'est plus intéressant de protéger le processus. Voilà. Et pas de le contrôler. Voilà. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit ? Je ne vous ai pas donné les trois indispensables, les trois choses indispensables que je vous ai promises. J'appelle ça les trois R, c'est histoire de se rappeler, c'est un moyen mnémotechnique. Alors, le premier R, c'est respirer. Respirer, c'est vraiment indispensable parce que ça vient oxygéner votre cerveau et donc ça vous empêche de partir dans des angoisses terribles. Ça vient oxygéner aussi votre utérus et votre bébé, donc c'est important. Et parfois, dans une contraction, dans le tumulte des contractions, on peut perdre sa respiration. C'est-à-dire qu'on peut suffoquer, se mettre à respirer en fait très haut. Voilà, parce que la douleur est là, parce qu'on ne sait plus la gérer, parce qu'on ne sait plus la traverser. Et donc, c'est toujours revenir à sa respiration. Et ça nécessite un peu d'entraînement. Et une fois qu'on l'a, en fait, vous l'avez pour toute votre vie. C'est-à-dire que ça vous sera très, très utile pour votre parentalité aussi derrière. Je vous assure. Parce que quand votre bébé il va beaucoup pleurer, quand il sera plus grand, qu'il fera des bêtises, que vous serez fatigué, eh ben, revenir à la respiration, ça permet de se réancrer et ça permet de se remettre dans un temps présent et de revoir ses priorités. Donc la respiration, elle va vous faire revenir ici, maintenant. Et vous ne serez pas dans la contraction qui vient de se passer. Vous ne serez pas dans la contraction d'après. Vous serez juste là. Ah, ok, il n'y a plus de contraction. Je profite. Je suis trop bien. Ok. Et il y en a une qui repart. Ok, je l'accompagne par ma respiration. Et ce n'est pas la même respiration qui accompagne. Et c'est vraiment important. Et votre partenaire, c'est important qu'il sache ça. Et que lui aussi, il puisse respirer, en fait, parce que c'est lui qui va vous ramener quand des fois vous allez perdre pied, peut-être perdre votre respiration. Soit vous allez y arriver de vous-même, soit vous avez besoin d'une aide extérieure. Et à ce moment-là, c'est votre partenaire qui va vous remettre, vous réaligner par la respiration. Donc le premier R, c'est la respiration. Le deuxième R, c'est remuer. Bon, alors bouger, c'était plus sympa, mais ce n'était pas un R, donc j'ai mis remuer. Remuer parce qu'on n'accouche pas de manière statique. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. D'abord, physiquement, votre bébé, il a besoin de votre aide pour trouver le bon angle, pour s'engager, pour descendre. Et en fait, faire accoucher une femme sur le dos, c'est démultiplier la douleur des contractions. Vous pourrez tester, hein, quand vous aurez une contraction, vous vous mettez sur le dos, vous allez faire une contraction comme ça, c'est sûr. Vous ne resterez pas comme ça. Et c'est normal que les femmes prennent la péri quand elles sont comme ça. C'est OK, parce que si elles n'ont pas le choix, qu'elles sont obligées d'accoucher comme ça, c'est inhumain. Donc, on prend la péri dans ce moment-là. On ne se pose pas de questions. Voilà, c'est obligé. Mais dans un accouchement où vous êtes libre de vos mouvements, vous pouvez prendre n'importe quelle position. Et alors, vous pouvez être assise, debout, couchée. Ce sont souvent des positions asymétriques. Et remuer, ça ne veut pas dire danser le rock. Hein. Ça ne veut pas forcément dire ça. Mais ça veut peut-être simplement dire « Ah ok, là, ça fait 10 minutes que je suis allongée sur le côté et je sens que c'est plus douloureux. Eh ben, je vais remonter mon genou plus vers moi. » Ok, ça va changer l'angle de pas grand-chose. Peut-être de 10 degrés, 5 degrés, 10 degrés. Mais en fait, pour votre bébé, c'est énorme parce que peut-être que là, il va trouver le passage. Donc, remuer, ce n'est pas forcément faire des grands mouvements. Mais c'est en tout cas changer de position souvent. Voilà. Changer l'angle, changer l'appui, bouger tout le temps, en fait. Il faut vraiment écouter votre corps et suivre le guide de la contraction. En fait. Donc, ça, c'est mon deuxième R. Donc, le premier, respirer. Le deuxième, remuer. Et le troisième, ritualiser. Alors, pourquoi ritualiser? Parce que vous allez entrer dans un état de conscience modifié. Ça, ce sont les endorphines qui font ça. Pour celles qui sont sportives, les endorphines, vous les sécrétez quand vous êtes dans le second souffle. Je sais pas, vous courez, et à un moment, vous n'en pouvez plus, c'est plus possible, et vous dites non, je ne lâche pas, et hop, je bascule, j'ai mon second souffle, et ça repart. Et là, ceux qui courent et qui sont dans ce second souffle, ils sont dans un état un peu cotonneux. Et bien ça, c'est l'état de conscience modifié dans lequel une femme accouche. C'est là que le néocortex est désactivé et que la partie archaïque prend le dessus. Et pour garder ce phénomène-là, le rituel est important. Parce qu'en fait, le rituel, il va empêcher votre cerveau de réfléchir. Alors, ritualiser, c'est peut-être un grand mot. Mais en fait, l'idée, c'est juste de prendre quelque chose que vous allez faire entre chaque contraction. Je suis en train de penser, la dernière femme que j'ai accompagnée, elle était allée se balader au début, en pré-travail, elle avait trouvé une jolie pierre par terre. Et bien, après, dans son travail actif, entre chaque contraction, elle serrait sa pierre dans la main. Voilà. Et moi, je ne l'avais pas vue ramasser la pierre, et je lui dis, mais c'est quoi cette pierre? Est-ce qu'elle a une symbolique particulière? Et elle m'a dit, non, je l'ai trouvée belle et j'en avais besoin. Et en fait, le fait de toujours faire ça, de toujours ramener son cerveau à ça, ça permet de ne pas penser à ce qui se passe ni avant ni après. Donc, ça peut être des choses toutes bêtes. Ça peut être regarder une photo que vous aimez bien. Ça peut être tremper vos lèvres dans un verre d'eau. Ça peut être, je sais pas, manger un raisin sec. En tout cas, il y a quelque chose qui vous parle et que vous mettez en place de manière automatique. Voilà. En fait, le rythme permet de maintenir le cerveau dans cet état de conscience différent. Voilà. Et ça, c'est très important. Et alors, je recite le docteur Michel Audan, qui vraiment est une grande référence. Docteur Michel Audan, il dit « Toutes les sages-femmes devraient tricoter en salle de travail. » Parce que quand elles tricotent, il y a le geste en fait, du tricot qui fait qu'il est très répétitif et elles rentrent en fait, dans un état méditatif. Elles rentrent dans un état de conscience modifié et du coup, elles viennent se connecter aux ondes cérébrales de la femme. Et moi, je trouve ça juste fantastique. Vous imaginez des cours de tricot en école de sage-femme? Ça serait trop bien. Donc voilà, Michel Audan, il dit, une sage-femme, ça se met dans un coin et ça tricote. Voilà. Et les doulas aussi, d'ailleurs. Bon, moi, je ne sais pas tricoter, mais je fais autre chose. Et voilà, il y a ce côté répétitif, vraiment. Et le partenaire, c'est pareil. C'est-à-dire que lui, il aura, c'est pas forcément quelque chose pour lui, mais en tout cas, l'idée, c'est qu'il ne vienne pas vous sortir de votre bulle. Il ne court pas dans tous les sens, un coup pour prendre le portable, un coup pour aller chercher à boire, un coup pour aller faire je ne sais pas quoi. Non, il reste à côté, en présence, et il est disponible en fait. Voilà. Et son rôle est vraiment, vraiment important. Vraiment, il y a des femmes qui peuvent accoucher seules, et qui sont OK, mais aujourd'hui, je pense que dans nos sociétés, l'accompagnant est vraiment important. Alors, il y a des hommes, ça on voit plus en détail dans l'atelier, mais je vous le dis quand même, il y a des hommes qui n'ont pas forcément envie d'y être et qui n'osent pas le dire parce que socialement, aujourd'hui, en France en particulier, il faut qu'ils soient là. Mais les hommes, ils sont rentrés dans les accouchements il y a à peine 50 ans. Hein. À l'échelle de l'humanité, c'est quand même rien du tout, vous imaginez ? Depuis le néolithique, là, et avant, il n'y a jamais eu d'hommes dans l'histoire de la naissance, jamais. Au XVIIe, les hommes sont rentrés par la porte de la médicalisation. Donc, il y avait des médecins qui rentraient, mais ils rentraient pour contrôler, pour gérer, pour la pathologie. Et en fait, les hommes, les partenaires, on va dire, de vie, ils sont rentrés dans les années 70, parce que du coup, les femmes sont rentrées dans les hôpitaux pour accoucher et qu'elles étaient seules. Et que le monde hospitalier s'est bien rendu compte qu'eux, ils n'étaient pas capables de rester 12 heures à côté d'une femme qui accouche. Ce n'était pas gérable, en fait, en termes de gestion hospitalière. Et qu'on ne pouvait pas non plus laisser une femme seule, qu'elle était en insécurité. Et donc, la personne qui vous accompagne, elle doit vous conforter dans cette sécurité. Donc, c'est important d'en discuter avec votre partenaire pour savoir si lui, il est OK avec ça ou pas. Et des fois, ce n'est pas OK. Et quand ce n'est pas OK, il vaut mieux qu'il soit de l'autre côté de la porte plutôt qu'à l'intérieur, parce que si lui se met à sécréter de l'adrénaline, l'adrénaline étant très contagieuse, et ben vous aussi, vous allez en sécréter. Et du coup, ça va altérer votre processus physiologique. Voilà. Donc là, j'ai beaucoup débordé sur d'autres sujets que la douleur, mais pour revenir à la douleur de l'accouchement, c'est... L'idée de ce café naissance, c'est de vous dire qu'on peut changer notre regard, en fait. Si on fait juste un pas de côté, on peut voir cette douleur autrement. Et ce n'est pas une douleur pathologique. On nous dit qu'il faut la supprimer, que ce n'est pas normal aujourd'hui, dans notre siècle, de vivre ça, et qu'il y a d'autres moyens de le vivre. Mais en fait, cette douleur, elle n'est pas pathologique. Elle ne vient pas nous informer d'un danger. Elle ne vient pas nous informer d'un risque. Au contraire, elle vient nous informer de la naissance de notre enfant. C'est quand même juste merveilleux, quoi. C'est elle qui vient nous donner ce message-là. Et donc, au lieu de résister et de dire « Non, je ne la veux pas », et bien en fait, il faut plonger dedans. Dire « Ok, je sais que ça ne va pas être facile, je sais, mais j'y vais. J'y vais parce que je sais que de l'autre côté, quand j'aurai passé toutes ces contractions, j'aurai mon bébé. » Voilà. Donc, voilà pour le partage que je voulais vous offrir. Est-ce que vous avez des questions toujours sur cette douleur ? Je vous ai assommé, en fait. Non, bon, ça va, ça me rassure. Merci.
Ben moi, pour continuer sur ce que je vous ai dit, c'était de savoir si les 5 dernières, je vais pouvoir tenir. Et au niveau d'intensité, c'est pareil, je ne connaissais pas la phase de désespérance et tout ça. Maintenant, je m'y intéresse, donc je sais que je vais passer par là. Mais bon, après, c'est un deuxième, ça va peut-être aller plus vite, on ne sait pas. Mais voilà, entre 0 et 5 et entre 5 et 10, est-ce que c'est vraiment incomparable ou est-ce que ça peut se gérer ? Enfin, moi, c'était ça par rapport à la douleur, ma question.
Bien sûr que ça peut se gérer. Ce que je disais tout à l'heure, tu sais, c'est que la douleur, elle n'est pas comme ça. Elle n'est pas exponentielle. C'est pas, je ne suis pas dilatée, je n'ai pas de douleur, et à 10, c'est juste abominable. Je supplie d'avoir la péri. Tu vois. En fait, ça fait vraiment des vagues. Et il y a une partie intense. Ça, c'est vrai, hein, y a une partie intense, pas forcément douloureuse, mais intense, c'est cette phase de désespérance. Mais c'est plutôt une phase dans laquelle la femme se dit « Ok, là, je sais que je suis ouverte. » Parce que la phase de désespérance, c'est vers 8-10. « Je sais que je suis ouverte, mais je sais que ça ne suffit pas et qu'il faut que je m'ouvre encore plus. » Et là, c'est de la peur derrière. Ce n'est pas de la douleur. C'est de la peur de se dire « Waouh, je suis arrivée là-haut, en haut de la montagne. Et là, il y a une falaise. Et il faut que je saute.
Oui. »
Et je ne sais pas ce qu'il y a là-bas. Et ça, on le travaille en atelier, tu vois, comment est-ce que je saute ? Comment est-ce que j'ai confiance ? Comment est-ce que je lâche prise ? Alors, ça, c'est un mot qui est un peu utilisé tout le temps aujourd'hui, mais L'accouchement, c'est le plus grand lâcher-prise qu'une femme puisse connaître parce que, en fait, elle ne maîtrise rien. Rien. Et sur, je voudrais juste raconter l'anecdote aussi de l'expulsion, parce que certaines femmes ont très peur des douleurs de l'expulsion. Et en fait, l'expulsion est très, très différente selon les femmes. Il peut y avoir des douleurs de cercle, ce qu'on appelle le cercle de feu, c'est-à-dire une sensation de brûlure, en fait, qui est tout autour du périnée, ce sont les tissus en fait, qui s'étirent. Mais ça peut être aussi orgasmique, ça peut être un sentiment d'extase. C'est-à-dire qu'entre la douleur et le plaisir, il y a toute une palette de couleurs que vous pouvez aller trouver. Ce n'est pas blanc ou noir, ça sera toujours dans un gris, je ne sais pas dans quel sens, mais moi j'ai vécu tout ça, c'est-à-dire que pour mon deuxième, j'ai eu ce cercle de feu. Voilà, c'est très surprenant. Bon, après, ça dure très peu de temps. Hein, voilà. Mais pour mon troisième, j'ai eu vraiment ce sentiment de... Pas de jouissance, c'était pas un orgasme, c'était pas ça, mais un truc extrêmement doux. Mais vraiment doux, quoi. Quelque chose qui tient à au-dessus de soi, en fait. Voilà. C'est là qu'on voit l'instant sacré, en fait, de l'accouchement. C'est là que vous vous dites qu'il y a un être qui est en train de s'incarner à travers moi. Et c'est juste incroyable. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Même si c'est médicalisé, même si vous avez une péri, même si vous devez partir en césarienne, ce n'est pas grave tout ça. C'est pas grave. Tant que vous êtes là en conscience et que vous accompagnez votre bébé, tout est OK. Mais ça, c'est difficile, ça demande un peu de... Voilà, ça demande un peu d'entraînement, un peu de... Comment dire ? D'ancrage. Non, un peu d'ancrage. C'est Fanny, je crois, qui posait la question. Je ne sais plus si je te vois
oui,
pas,
c'est, Fanny. Oui, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Donc, Fanny, si tu as encore le temps, moi, je t'invite à participer à l'atelier derrière, parce qu'on pourra vraiment travailler ça. Et vraiment, tu en sortiras, je pense, confiante de ces cinq derniers centimètres. Mais vraiment, c'est l'idée de ces ateliers, c'est de vous redonner confiance, d'abord dans la tête, parce que tant que la tête n'est pas confiante, on peut vous dire n'importe quoi, de toute façon, ça ne marche pas. C'est-à-dire que là, il faut déjà être sûr que tout fonctionne bien, que c'est OK, que tout est paré, et après, on descend dans le corps. Et après, corporellement, votre corps est fait pour ça. Et donc, on peut tester plein de choses. Voilà. Donc, je vous invite à aller... Alors, mon site, il est en cours de refonte complète, mais je vais vous envoyer juste le lien de la page qui concerne l'atelier, si vous voulez vous inscrire. Voilà, donc mardi prochain et le mardi d'après. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui sont de Valence, mais ce sera en présentiel à 10h et ce sera en visio à 14h. Et c'est enregistré pour que les conjoints puissent le voir après. Voilà. Et puis, je vous invite aussi, si ce n'est pas déjà fait, à rejoindre le groupe Facebook « Ma maternité autrement ». Il y en a certaines qui y sont, je les reconnais. Voilà, c'est un groupe qui est monté depuis vraiment pas très longtemps. Hein. Ça fait 3 semaines, je crois, que j'ai monté ça. Mais en tout cas, voilà, on essaie avec Laurie, hein, qui est modératrice avec moi, on essaie de transmettre beaucoup de ressources et de faire des échanges, du partage, voilà, pour que vous puissiez trouver votre chemin et que voilà, vous ne suiviez pas forcément l'autoroute qu'on vous propose parce que l'autoroute, certes, c'est facile et c'est rapide, mais ça ne correspond pas forcément à tout le monde. Voilà. Et donc, la vocation de ce groupe, elle est plutôt de donner des chemins de traverse, en fait. Voilà. Donc, comment je peux faire, là ? Je vais vous envoyer un premier mail avec les liens. Ça sera moins compliqué pour moi. Et puis, un deuxième mail derrière avec le replay, dès que je l'aurai récupéré en audio. Comme ça, vous pourrez le réécouter. Vous pouvez le faire écouter à vos partenaires aussi. C'est une bonne idée de partager ça avec eux. Et puis, je vous souhaite une belle grossesse, un bel accouchement. Si vous le souhaitez, je vous retrouve en atelier avec grand plaisir pour que vous puissiez vivre sereinement votre accouchement physiologique. Et que vous puissiez retrouver votre puissance votre puissance de femme à enfanter. Voilà. Merci beaucoup à toutes.
Merci.
Et puis, pour celles qui n'auront pas accouché d'ici là, au mois prochain.
Ouais.
Au mois prochain, ce sera sur... je crois que j'ai mis le projet de naissance, il me semble. Voilà.
Ben voilà.
Voilà, merci beaucoup à toutes. Et puis, à très bientôt.
Merci.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.